Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Je suis assez stressée, mais aussi très très heureuse de partager ce moment avec vous et surtout de pouvoir partager la parole. Alors, je voudrais d'abord demander au Seigneur son aide. Seigneur, nous avons besoin que tu nous éclaires de ton esprit pour que nous puissions percevoir ce que tu as à nous dire ce matin, dans ce moment et dans ce lieu, et pour que ta parole ne reste pas lettre morte dans notre vie. Amen. Alors, c'est encore un petit tour dans la Genèse, comme la dernière fois, où cette fois-ci, on va voir quelques éléments, quelque chose de la place de l'homme, l'être humain, l'homme et la femme, dans la création. Alors, si je peux m'exprimer un petit peu schématiquement, au début de la création, Dieu a fait des créatures uniquement célestes, les anges, l'armée des cieux, dont on sait assez peu de choses. Il a fait des créatures uniquement terrestres, les animaux. Et puis, finalement, une créature à la fois terrestre et céleste, dans laquelle il a placé son image, et ça, c'est l'homme. Et ceci en fait une créature à la place unique dans la création, et ça sera un peu le thème de ce matin. Alors, il faut que je m'habitue à voir ce que vous voyez. Voilà, alors lisons. Puis Dieu dit, faisons l'être humain à notre image, ou l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'être humain à son image, il le créa à l'image de Dieu. Alors, il créa l'homme et la femme, ou il les créa, homme et femme. Ces versets, vous les connaissez tous par cœur, c'est vraiment des versets basiques, mais je vais essayer de montrer, avec l'aide du Seigneur, que dans une lecture hébraïque de ces versets, on peut trouver de véritables trésors. Alors, je vais juste dire dans l'original, bon, sans faire trop d'hébreu, hein, je vous rassure, mais dire dans l'original comment ça se passe. Alors, Vayomer Elohim, Dieu dit, Naase à Adam. Alors, faisons l'homme. Et l'homme, l'être humain, se dit donc Adam, Adam. Au départ, Adam n'est pas un prénom. Alors, ce qui est remarquable dans ce passage, si vous voulez, dans le dernier verset, le verset 27, c'est que vous voyez que Dieu crée cet Adam à son image, et aussitôt après, on peut remarquer qu'il est parlé de l'homme et de la femme, du masculin et du féminin, aussitôt après. Et on va voir que, en fait, c'est pas par hasard. Dieu parle de son image et tout de suite après, il y a l'homme et la femme, le masculin, le féminin. Alors, puisqu'on parle de Adam, voici comment ça s'écrit en hébreu. Donc, il y a trois lettres, Aleph, Dalet, Mem. Et ce qui, bon, donc Adam vient de Adama, qui veut dire la terre, le sol. C'est un peu comme homme qui vient de humus, l'humus. Et donc, c'est un nom commun au départ, Adam, pour désigner en fait tous les êtres humains et l'humanité. Ensuite, oui, c'est devenu un prénom. Et on peut parler du premier homme comme Adam. Mais au départ, il ne faut pas se tromper quand on lit, parce que sinon, on croit que quand on dit Adam, on parle du masculin. Et, alors, c'est pas tout. Enfin, il faut être plus précis. Être rigoureux et vraiment collé à ce qui est dit dans le texte. Ce qui est remarquable dans ce nom, c'est qu'en fait, la nature de l'homme est inscrite dans ce nom même. Alors, vous voyez que ce nom, il comporte une partie, c'est Aleph, donc à droite, 1. Et Aleph représente la partie divine de l'homme, représente, comment dire, sa nature céleste. Je disais en introduction que l'homme, sa spécificité, c'est justement d'avoir cette double nature. Oui, il est tiré de la terre, mais il a aussi une dimension céleste. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, attendez, je ne me perde pas dans mes feuilles. Alors, Aleph, et si on sépare ce Aleph, cette partie divine du reste du nom, il reste dame, et dame, ça veut dire le sang. Ce qui veut dire, quelque part, qu'on est des êtres de chair et de sang, mais reliés à l'éternité, reliés à l'éternel. Les animaux ont reçu ce qu'on appelle la nefesh, l'âme animale, comme nous, mais ils n'ont pas la neshama, ils n'ont pas cet esprit, cette partie divine qui les relie étroitement au Créateur. Et on voit dans ce nom que si on renie cette partie divine qui est en nous, si on la met de côté, eh ben, il reste ce côté qu'on pourrait appeler charnel, mais qui est, comment dire, on reste livré à nos passions et à toute la dimension de notre être naturel. Voilà, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Et ce qui est, en fait, l'être humain, c'est ce mélange des deux. Voilà. Et maintenant, venons-en à la femme. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Alors, une aide semblable à lui, ou qui lui corresponde, qui lui soit assortie, ou bien un vis-à-vis. Et le mot pour dire aide, c'est ézer. En fait, c'est un mot que vous connaissez déjà. Ézer, ça veut dire secours, ça veut dire aide, et vous aurez sûrement remarqué qu'après aide, il n'y a pas écrit ménagère. En fait, c'est beaucoup plus que ça, et il n'y a pas non plus écrit doliprane de l'homme. Mais ézer, c'est un mot qui, très souvent dans la Bible, parce que vous savez, c'est intéressant quand vous trouvez un mot, de voir dans d'autres passages comment il est utilisé et le sens qu'il a. Et ézer, c'est un mot qui est très souvent utilisé pour Dieu. C'est-à-dire que le secours est en Dieu. Alors vous connaissez le nom du serviteur d'Abraham, Eliezer. Eliezer, c'est Eliezer, c'est-à-dire le secours dans mon Dieu. Eli, mon Dieu, ézer, aide ou secours. Et puis, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil ou une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes ou de son côté et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois. Cette fois, parce que la fois d'avant, c'était que des animaux. Hein. Celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. La femme sort de l'intérieur de l'homme. Et ça, c'est intéressant. En fait, la femme est l'intériorité de l'homme. Et ce n'est pas une deuxième créature sortie de nulle part que Dieu ferait à côté de l'homme. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Ce n'est pas une deuxième création. Et que Dieu lui amènerait comme il a amené, par exemple, les animaux, justement. Non, elle vient de lui. Elle est de la même nature et de la même espèce. Elle naît de lui pendant son sommeil. Un sommeil très profond provoqué par Dieu. Et ça, ce n'est pas anodin. Elle naît de son côté pendant qu'il dort. Et là, vous savez, je vous disais la dernière fois que la Genèse est un livre qui est entièrement prophétique. En tout cas, c'est comme ça que la tradition juive le voit, et je crois que c'est vrai. De la même façon, l'épouse de Christ, c'est-à-dire l'Église fidèle, naîtra du côté percé de Jésus, mort sur la croix, pendant qu'il dort. Et il y a là un parallèle saisissant, car de la même façon que Adam s'écrit « os de mes os, chair de ma chair », parce qu'il la reconnaît, il reconnaît qu'elle est de la même nature, l'épouse de Christ ne peut être que de la même nature que lui. Et l'épouse est née de la terre, mais elle est aussi née d'en haut, comme lui, comme Christ. Elle est née de Christ aussi mystérieusement que la femme est née de l'homme. Parce qu'il faut avouer que cet épisode, il est quand même très mystérieux, très très mystérieux. Et il y a donc une portée prophétique dans le commencement de l'homme et de la femme. Alors nous avons vu que Dieu a créé les humains masculins et féminins. C'est lorsque ces deux dimensions-là sont réunies, en fait, quand elles sont réunies, que se dessine l'image de Dieu. Alors, Ish, Isha, c'est homme et femme, homme dans le sens masculin, voilà. Alors que Adam, ça, c'est une signification plus générale. Alors, cette image de Dieu, elle existe aussi, bien sûr, dans chaque individu, homme ou femme, mais elle existe bel et bien dans le couple. Seulement, là, il faut être attentif. Alors, je vais d'abord essayer d'expliquer un tout petit peu. Vous voyez, Ish, Isha, ça s'écrit pas tout à fait pareil, mais il y a des lettres en commun. Quand les deux sont réunis, c'est-à-dire l'homme et la femme sont unis, parce qu'on est fait quand même pour fonctionner ensemble et non pas l'un contre l'autre, en s'honorant mutuellement. Lorsque les deux noms sont réunis, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que le tétragramme, le début du tétragramme du nom de l'Éternel apparaît quand les deux sont réunis. Mais si, par contre, on enlève ces deux lettres, il reste deux autres lettres, alors je ne l'ai pas mis sur la diapo, mais ces deux lettres, c'est Esh, et ça veut dire le feu. Donc, quand Dieu n'est pas dans le couple, ben, très très vite, ça devient très compliqué. Alors, là où il faut être attentif, quand on parle d'unité entre le masculin et le féminin, c'est qu'il faut se rappeler du début de la création, quand Dieu crée le monde, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il sépare, il distingue, il commence par séparer la lumière et les ténèbres, le jour, la nuit, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, il distingue. Et de la même façon, dans le couple, il différencie. Alors je sais que c'est un sujet très, très actuel, hein, voire même chaud parfois, mais il différencie. Et pour qu'un couple en fait fonctionne bien, chacun doit être lui-même, afin de se choisir et de s'aimer librement. Parce que plus on est nous-mêmes et plus on est capable d'exercer notre liberté. Et l'homme, en fait, reste l'homme dans toute sa dignité masculine, si. Et la femme reste femme dans toute sa, comment dire, sa nature profonde, avec tout le côté, l'intuition et tout ça. Mais surtout, l'un n'absorbe pas l'autre. L'un n'absorbe pas l'autre et l'un ne devient pas l'autre. Ça, c'est vraiment important. Parce que, en fait, ça, c'est une fausse image de l'unité. L'unité ne peut pas se faire entre deux êtres qui se mangent un peu l'un l'autre. Et la volonté de Dieu, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que la femme reste la femme, l'homme reste l'homme, et qu'ils fonctionnent ensemble. Et ça, c'est important parce que ça a des implications aussi dans notre vie spirituelle. Parce que vous pourriez dire, ben moi, je ne suis pas mariée, et ça, tout ça, c'est bien beau, mais ça ne me concerne pas. En fait, ça nous concerne tous. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de confusion, ni de fusion, mais il est un Dieu de communion. Et la communion ne peut exister qu'à ce prix-là. Voilà. Donc, ce qui est vrai dans la vie de couple est aussi vrai dans la vie spirituelle, dans notre union avec Christ. Et cette épouse qu'il chérit, il la porte en lui. Elle est distincte de lui, mais il viendra la chercher pour s'unir à elle. Voilà. Et vous pourriez dire, mais ce tableau, il est idyllique, c'est le jardin d'Éden, c'est magnifique, c'est splendide. Mais malheureusement, voilà, il y a des ombres au tableau. Alors, les ombres au tableau, c'est que dans ce tableau idyllique, il y a quelqu'un, l'ennemi, qui observe ces êtres et qui ne peut être que jaloux de ce mélange pas banal de ces créatures tirées de la terre, mais dans lesquelles, stupéfaction, Dieu a osé placer son image et son souffle. Même les créatures célestes les plus élevées dont il fait partie n'ont pas eu ce privilège époustouflant. Le serpent arrive. Je passe vite parce que vous connaissez la suite. Et donc le serpent dit à la femme, « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux ou comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Alors ça c'est vraiment, j'ai presque hésité à le mettre parce que je ne veux pas faire trop long. Comme des dieux, ça se dit « qu'est Elohim ». C'est-à-dire « Elohim », c'est « Dieu », généralement traduit comme ça. On peut aussi traduire « des dieux » parce que c'est un pluriel. Et ce qui est quand même incroyable, c'est que « qu'est Elohim », si vous faites la somme des lettres, eh bien, ça fait 666. Et c'est la première fois dans la Bible qu'on voit déjà ce 666, alors nous, on n'est pas trop habitués à ça parce qu'on lit en français, mais un juif qui lit normalement dans l'hébreu est capable, contrairement à moi, de voir, par exemple, non seulement des mots, mais des chiffres qui s'affichent. C'est déjà 666 et ça veut dire quand même, ça dit quelque chose de l'esprit de l'Antichrist, qui est cet esprit qui veut toujours prendre la place de Dieu. Voilà. Et maintenant, nous voici au moment où Dieu prononce la malédiction sur le serpent. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Soyez vraiment attentifs aux mots. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que au cœur même de cette malédiction, parce que c'est une malédiction, il y a une espérance extraordinaire, est une espérance véritablement messianique. C'est la promesse du Messie sauveur qui lui écrasera la tête. Mais regardons de plus près. Il y a deux semences de postérité, celle du serpent et celle de la femme. Ces deux semences seront très difficiles à identifier. très difficiles à identifier, très compliquées. Il faudra énormément de perspicacité pour les reconnaître dans les générations qui suivront, bien sûr. Par exemple, Ève, quand elle a eu son premier enfant, Caïn, elle qui entend ça, je peux imaginer qu'elle s'est dit peut-être le fils que je vais avoir, ça sera lui, ce sera le Messie. C'est lui qui va écraser la tête. Elle n'avait pas forcément en tête qu'il y aurait des milliers d'années. Or, Caïn a tué Abel. Donc, voilà, Ève a pu se tromper. Alors, la semence de la femme engendrera le Messie et celle du serpent fera tout pour que le Messie n'arrive pas et que sa mission échoue. Alors, Marc, mon mari, m'a demandé de juste faire une toute petite précision. Je regarde, je dépasse pas, ça va. Parce qu'il me dit, tu devrais quand même dire un mot de ce que c'est que la postérité du serpent, parce qu'il ne faut pas s'imaginer qu'il y a des enfants, des êtres humains qui naissent perdus, maudits, et qui sont de la génération du serpent. Hein. Ce n'est pas ça du tout. Hein. C'est que, en fait, la postérité du serpent, c'est lorsque des êtres humains seront mal inspirés par l'ennemi, et agiront pour empêcher vraiment la postérité du Messie d'arriver. Alors, dans la Genèse, la mission des femmes, ça c'est très particulier, particulièrement Sarah, Rebecca, mais aussi d'autres, sera d'arriver à identifier la postérité messianique et à la préserver, à la protéger. Il y a des attitudes et des décisions, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, dans la Genèse, qui peuvent paraître incompréhensibles et même scandaleuses si on ne comprend pas quel est l'enjeu. Sarah verra mieux qu'Abraham qu'il faut absolument protéger Isaac, le protéger d'Ismaël et d'Agar. Rebecca saura mieux qu'Isaac, quand il sera devenu vieux, que la postérité passera par Jacob et non par Ésaü. Parce que sans Jacob, pas de peuple juif, sans le peuple juif, pas de Messie, sans le Messie, pas de salut. Et puis, dans ce verset, il y a quelque chose qu'on lit et qui passe complètement inaperçu dans cette promesse de Dieu, parce qu'on a l'habitude de la lire comme ça, sans trop faire attention, c'est que là, Dieu parle de la descendance de la mère et non pas du père. Or, dans toutes les généalogies de la Bible, Ancien ou Nouveau Testament, les généalogies passent toujours par le père, à quatre exceptions près. Il y a quatre femmes quand même. Mais c'est toujours le père qui détermine, qui engendre et qui détermine la postérité. Or, en ce qui concerne le Messie, il y a quelque chose d'inhabituel, c'est qu'on ne parle pas du côté paternel. Et pour cause, c'est un énorme indice. C'est un énorme indice. Mais on parle uniquement du côté maternel, c'est-à-dire que le Messie sera connu par sa mère. Et effectivement, Jésus a bien une mère dont on a beaucoup parlé, Marie. Mais son père n'est pas un homme, parce que son père, c'est Dieu lui-même. Donc cette promesse extraordinaire qui est contenue dans ce verset, mais qui est comme presque cachée, elle s'est vraiment accomplie à la lettre avec la naissance de Jésus. Alors aujourd'hui, les temps sont difficiles. On vit beaucoup de pression, beaucoup d'oppression. Et c'est vrai qu'on voit que la foi, l'espérance et l'amour ont tendance à s'affaiblir, du moins dans nos pays, dans nos contrées. Il y a beaucoup d'épreuves dans la vie de chacun, mais il y a un verset que j'aime particulièrement. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Et je trouve dans ce verset une consolation parce qu'il est dit au milieu de la nuit. Il n'est pas dit le matin quand la lumière est revenue, mais au milieu de la nuit. Et voilà, je voudrais juste vous laisser ce verset comme un encouragement. Donc, ne nous laissons pas abattre par les difficultés de la vie, par les ténèbres qui envahissent ce monde. Ce matin, on a beaucoup parlé de la lumière. Et préparons-nous à la rencontre de notre époux, si possible, avec un peu de passion. Voilà, l'esprit et l'épouse disent « Viens, que le Seigneur vous bénisse ».